C'est le journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour Amélie et bonjour à tous. À la une ce matin, Erasmus menacé par le Covid. Certaines universités européennes ont d'ores et déjà fermé la porte à une venue des étudiants étrangers à la rentrée. Conséquence, voyages annulés pour certains Français. Eux veulent entrer en Europe. Des milliers de migrants sont bloqués en Turquie en raison des contrôles renforcés aux frontières depuis le début de la pandémie. Dans ce journal encore, trop de bruit au bord de la promenade des Anglais. Nice interdit l'accès aux plages les soirs de week-end et le meilleur entraîneur de handball féminin du monde est français. Portrait à suivre d'Emmanuel Maillonnade.
Et pour que le souffle du théâtre revienne à Avignon, un festival de lecture a quand même lieu ces jours-ci. Parmi les têtes d'affiche, la comédienne Ariane Ascaride. Elle sera notre invitée dans 20 minutes.
France Inter.
Ils sont près de 40 000 Français chaque année à partir étudier à l'étranger.
Dans le cadre du programme européen Erasmus, victimes, eux aussi, du coronavirus. D'après une étude de l'association ESN, près de la moitié de ceux partis au second semestre cette année ont dû rentrer chez eux. Et maintenant, quid de ceux qui doivent partir à la rentrée? Les frontières de Schengen ont beau être ouvertes, les universités européennes craignent une seconde vague. Certaines ont donc décidé de fermer leurs portes aux étudiants étrangers. Rachel Sadodine.
Clara avait tout prévu pour aller faire sa troisième année d'études en Finlande. Et le 3 août, elle devait s'envoler pour les lacs de Tampere, réaliser son rêve.
Je m'imaginais une nouvelle vie dans un pays que je connais pas, un peu l'auberge espagnole, où on n'a pas trop cours, mais où on rencontre beaucoup de gens, où on voyage, etc. Jusqu'à ce qu'on ait un jour un mail pour nous dire qu'ils accueillaient pas les étudiants étrangers chez eux pour le premier semestre. Donc à la place, on est en train de monter avec une autre fille de Sciences Po un projet en fait pour partir voyager en van en Europe et vivre une vraie année Erasmus étudiante.
À l'université Savoie-Mont-Blanc, 15% des établissements partenaires ont tout bonnement refusé d'accueillir des étudiants en septembre. Laurence Vignolet, vice-présidente aux relations internationales.
Certains nous ont dit « vos étudiants sont les bienvenus ». Certaines nous disent qu'ils préfèrent que nos étudiantes reportent leur mobilité au deuxième semestre. Et on a une troisième catégorie d'établissements qui nous disent préférer proposer un enseignement à distance en début de semestre. Et puis, dès que sera possible la venue de vos étudiants, eh bien, ils seront les bienvenus.
Et ces nouvelles contraintes découragent les étudiants. Pour preuve, l'université savoyarde constate une baisse de 25% des candidatures au programme Erasmus.
Rachel Sadodine, 600 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie. Des comptes effectués ce matin par l'AFP à partir des chiffres officiels. En Australie, pour tenter de freiner le virus, le masque devient obligatoire partout à Melbourne à partir du milieu de ce semaine prochaine. À l'inverse, en Colombie, le confinement va être assoupli en raison de la crise économique, alors que le pic n'est pas atteint et que le pays dénombre 1000 morts en seulement une semaine. Eux sont victimes invisibles de la pandémie. Les migrants en Turquie, premier pays d'accueil de réfugiés au monde. Les contrôles sont renforcés à la frontière avec la Grèce et donc avec l'Union européenne, où rêvent de passer nombre de migrants. Ils se retrouvent bloqués, parfois depuis des mois, dans des situations éprouvantes. À Istanbul, la correspondance d'Anand Lohr.
Amadou a presque tout perdu. Son travail à Istanbul, ses économies et ses rêves d'Europe, pour l'instant. Fin février, comme des milliers de migrants, ce jeune Sénégalais se précipite à la frontière grecque dans l'espoir d'un passage que font miroiter les autorités turques. Il est arrêté et renvoyé deux fois. À son retour à Istanbul mi-mars, la Turquie dépiste son premier cas de nouveau coronavirus. Le pays se confine et Amadou perd son unique revenu, 50 euros par semaine pour 78 heures de travail dans une petite fabrique de sacs.
Sincèrement, c'est dur. Voilà, c'est dur. Les ateliers sont fermés. Financièrement, je suis plat. L'épidémie a eu beaucoup d'impact négativement sur notre vécu quotidien.
Amadou, qui n'a toujours pas repris le travail, serait à la rue s'il n'avait pas croisé la route du groupe de solidarité de Tarlabacheux. Cette structure a aidé des centaines de migrants d'Istanbul à se loger, se nourrir, mais aussi à se procurer des masques et du gel hydroalcoolique. Mohamed Sadek Yachar, l'un des fondateurs.
Sur un millier de migrants rencontrés sur le terrain, un seul continue de travailler. Beaucoup ont connu la faim pendant cette période. Avec le chômage déjà élevé en Turquie qui risque de s'aggraver, les difficultés croissante pour se nourrir et se loger, ils risquent d'être de plus en plus nombreux à tenter de gagner l'Europe.
Et ce, alors que les frontières, à cause de l'épidémie et du chantage migratoire de la Turquie, n'ont jamais été aussi contrôlées. Anand Lohr, Istanbul, RFI pour France Inter.
Les Syriens, eux, sont appelés aux urnes aujourd'hui.
Pour les troisièmes élections législatives dans le pays dirigé par Bachar el-Assad depuis le début de la guerre en 2011, peu de suspense, le parti présidentiel devrait remporter ces élections haut la main. Des vitraux brisés, des tableaux calcinés et un grand grand orgue vieux de 4 siècles qui ne résonnera plus. Les dégâts sont importants après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Des dégâts que le père François Renaud a pu constater hier. Lui qui assure l'intérim du diocèse de Nantes est l'un des rares à avoir pu entrer dans la cathédrale après l'incendie.
Ça a été d'abord cette stupéfaction de découvrir la tribune vide. Alors qu'il y avait un immense orgue qui occupait toute la tribune. Là, il n'y a plus rien. Tout est parti, tout a fondu, tout a brûlé. Il y avait quand même beaucoup de fumée, mais beaucoup moins qu'auparavant. Le pompier m'a dit qu'une demi-heure avant, on ne voyait pas à 10 mètres. Dans la foulée, derrière l'orgue, derrière le buffet d'orgue, il y avait cette verrière qu'on voit sur la façade de la cathédrale. Donc elle a explosé sous l'effet de la chaleur. C'était le seul endroit de la cathédrale où il y avait des anciens vitraux. Bon, ben voilà, on n'y retrouvera pas. Et donc cette peine immense, j'ai encore de la peine à réaliser. Puis en même temps, je vous avoue que j'ai été frappé en entrant dans la cathédrale par le professionnalisme, le calme des pompiers qui tenaient le lieu, qui tenaient la sécurité du site. J'étais assez impressionné par ça.
Un témoignage au micro de Léo Técher. Une enquête pour incendie volontaire est en cours. 3 départs de feu distincts ont été identifiés, même si aucune trace d'effraction n'a été relevée. Éric Dupond-Moretti dévoile sa feuille de route dans une interview au Journal du Dimanche. Ce matin, le nouveau garde des Sceaux parle d'une justice de proximité, confirme l'augmentation du budget de la justice et souhaite que les hommes soupçonnés de violences conjugales reçoivent un avertissement judiciaire de la part des procureurs. Certains me caricaturent en laxiste qui veut vider les prisons, d'autres en ultra répressif qui veut les remplir. Je ne serai ni l'un ni l'autre, dit également Éric Dupond-Moretti.
7h37, la suite de votre journal. Kevin Dufraîche à Nice. Trop de fêtes, trop de bruit le soir sur les plages.
C'est en tout cas ce que pense la ville qui prend un arrêté pour interdire l'accès aux plages les soirs de week-end de 22h à 7h du matin. Et ça pour lutter contre les rassemblements de jeunes, dit la municipalité. Alors le long de la promenade des Anglais, comment cette nouvelle est-elle accueillie? Reportage de Sonia Gobry.
D'abord, il y a les pour, ceux qui se plaignent des nuisances, comme Fabienne. Elle commence à connaître le numéro de la police municipale par cœur. Elle habite à une centaine de mètres de la plage.
Passé une nuit ici, il y a 3 jours, c'était la boîte de nuit. On a halluciné, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pam, 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 wouh! C'était un groupe de jeunes qui sont allés se baigner et ça a duré 1h30 quoi. 4h du matin, on aimerait bien dormir.
Eliel fait partie de ces jeunes qui peuvent rester sur la plage jusqu'au petit matin.
Jusqu'à 5h du matin par exemple sur la plage. Nice n'est pas vraiment une ville très jeune. Il n'y a pas énormément de boîtes, de bars, de coins où sortir. La plage c'est vraiment un atout.
L'étudiant reconnaît que parfois ça peut déborder à cause de l'alcool notamment.
Du bruit pas forcément. Il n'y a pas énormément de monde non plus jusqu'à 5h du matin. Mais oui, il y a des bagarres. Mais bon, il y a des bagarres partout. C'est juste que là du coup il y a des pierres où les gens se jettent des pierres.
Pour Jazzer, Alexandrie et Fleur, cette décision d'interdire l'accès aux plages après 22h le week-end est injuste.
La plupart des gens ne font pas de dégâts, ils n'agressent personne, ça se passe la plupart du temps très bien, c'est rarement qu'il y a des débordements.
Après, s'ils achètent dans le coin, ils sont quand même au courant que la plage c'est un lieu public, donc ça peut être un lieu où il y a du bruit le soir.
C'est juste déplacer le problème.
Au sein de la ville.
Pour ces jeunes, le maire de Nice, avec cette mesure, entretient ce cliché répandu de la ville des mamies à caniche.
Un reportage France Bleu Azur de Sonia Gobry pour France Inter. Enfin, le meilleur entraîneur du monde en handball féminin et français. Emmanuel Maillonnade a été récompensé par la Fédération internationale de hand hier pour ses résultats en 2019. Pas avec l'équipe de France, mais avec celle des Pays-Bas, championne du monde en décembre dernier. Jean-Pierre Blimaud.
Emmanuel Maillonnade, c'est l'histoire d'un coup de maître qui l'emmène sur le toit du monde. Alors qu'il dirige les joueuses de Metz, l'une des places fortes du hand féminin en France, début 2019, il accepte de prendre en main la sélection des Pays-Bas avec pour objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Arrive le mondial à la fin de l'année dernière au Japon et là, c'est le jackpot. Alors que l'équipe de France, tenante du titre et championne d'Europe, se fait sortir dès le premier tour, il emmène les Hollandaises vers un titre de championne du monde à la surprise générale, alors que les Néerlandaises avaient perdu le premier match. Un coup de maître pour le Girondin qui avait entré sa première équipe dès l'âge de 23 ans.
Quand on perd le premier match, le soir, je rentre dans la chambre et je me dis donc c'était pas simple. Bon, je m'étais dit, waouh, ma vie, cette affaire-là, elle va pas durer longtemps, quoi.
Emmanuel Maillonnade est aussi l'entraîneur du Metz Handball qu'il a emmené pour la première fois jusqu'en demi-finale de la Champions League l'an dernier. Pour le Girondin, diriger une sélection nationale n'est pas vraiment plus difficile qu'un club.
C'est vraiment un métier différent. On entraîne presque jamais, quoi. Je fais de la vidéo, du management et des discussions et de la tactique et des trucs comme ça. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir plus de travail qu'à Metz, quoi.
Emmanuel Maillonnade devait diriger les Hollandaises au JO de Tokyo cet été. Il patientera donc un an de plus pour entraîner ses galons de meilleur entraîneur du monde.
Un dernier mot de sport à la Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie cet après-midi. Lewis Hamilton partira en pole position pour la 90e fois de sa carrière.
C'était le journal de Kevin Dufraîche. Merci. Des nouvelles du ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros.
Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Jean-Michel Golinski, vous nous annoncez une journée estivale.
Ah, ce sera effectivement le cas, sauf au voisinage de la Manche, où là l'ambiance sera nettement plus grise, parfois ponctuée de pluies éparses et accompagnée de températures basses comparées au reste du pays, avec 18 à 20 degrés cet après-midi de Dunkerque au Havre et du pays de Léon à Cherbourg. Plus bas, il est prévu 26 à Lille, 28 dans l'intérieur de la Normandie et de la Bretagne, 30 sur les pays de la Loire, le Grand Est, 31 à 32 en Rhône-Alpes, dans la capitale, sur le Poitou et le centre Val-de-Loire, 33 degrés dans la basse vallée du Rhône et 34 sur les plaines du sud-ouest.